a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie, bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir nous faisons le point sur les universités américaines. Les frais pour une licence ou un master peuvent dépasser les 50 000 $ par an dans les écoles privées les plus prestigieuses. Des prix exorbitants qui découragent les étudiants les plus modestes et qui poussent les autres à s'endetter sur des décennies. Nous attendons vos questions. Pour participer, appelez le 001-202-205-2633. Et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VO Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Accueillons nos invités, Souleyman Béchir Diagne, professeur de philosophie à Columbia University à New York, et Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, Souleyman Béchir Diagne, pour se donner une idée, combien coûte un master à Columbia University?
Écoutez, le master est autour de 40 000 $, oui.
40 000 $.
Pour les arts and sciences, oui.
OK. Et à Princeton, Leonard Wanchekon?
Même chose, hein. On a moins de master qu'à Columbia. On a le premier cycle, donc il coûte à peu près la même chose.
Ouais.
Et le PhD, on ne paye rien.
Oh, le PhD,
la plupart des étudiants sont boursiers, en fait.
Mm-hmm. Et c'est assez fréquent hein, que les PhD soient gratuits, non?
Oui. Pardon.
Alors, on va rentrer dans le cœur du problème, hein, Souleyman Béchir Ndiaye. Pourquoi est-ce que les frais de scolarité, les tuition, comme on les appelle ici, sont si élevés?
Bah écoutez, on a l'impression qu'il y a une espèce d'effet récurrent, si vous voulez, d'une augmentation permanente des coûts, parce qu'il s'agit pour les universités de construire. Je sais que, par exemple, Columbia est en pleine construction, est en pleine expansion du côté en direction du Bronx, dans Manhattan. Mm-hmm. Et c'est le cas aussi pour beaucoup d'universités. Les frais et les augmentations de frais de ces universités pour toujours rester au plus haut niveau, voilà ce qui fait que le coût augmente et malheureusement une portion de ce coût est répercutée sur les parents et les étudiants.
Mmh. Et vous, Léonard Wanchekon, est-ce que vous avez la même lecture pour expliquer le prix exorbitant de ces frais de scolarité?
Bon, en dehors de ce que mon collègue Souleyman a dit, il y a aussi l'effet culture. Donc, depuis le début, la plus grande université sont privées et sont relativement indépendantes. Elles ont toujours chargé de frais de scolarité assez élevés pour pouvoir. Disons, non seulement les coûts d'expansion, comme Souleyman l'a dit, mais également les professeurs qu'il faut payer, la recherche qu'il faut financer, tout le reste, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on, sur ce plan, on est un peu victime quand même de l'histoire du passé. Voilà.
Mais alors, les frais, hein, ils n'ont cessé d'augmenter au cours des 30 dernières années. Comment l'expliquer? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'Américains qui estiment que ce n'est pas normal.
Bon, je pensais que c'est Souleyman réaliste.
Non, allez-y, Léonard.
Pardon. Mais bon, en fait, le problème des frais de scolarité, c'est quand même, c'est pas aussi simple que cela. Donc, d'abord, c'est vrai que les universités sont très chères, mais c'est aussi vrai que les universités investissent énormément dans la recherche, dans les études graduées. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces études sont pour la plupart totalement gratuites. Et puis, elles sont compétitives, donc elles se livrent aux lois du marché, donc pour attirer les superstars européens, africains, donc latino-américains dans leurs universités. Donc cela, c'est maintenant le gros problème justement qui se pose. Et également les parents, ils essayent, donc sachant comment le système marche. Et on commence à économiser même dès la naissance de l'enfant pour payer les frais de scolarité. Donc tout ça, le vrai problème donc, qui se pose là, c'est que c'est important que donc, le gouvernement intervienne, donc, par exemple pour réduire le poids de ces cours-là sur les familles pauvres. Également que les universités elles-mêmes aient des programmes donc, pour pouvoir subventionner donc, les frais de scolarité de ces étudiants ou les réduire de façon substantielle. De plus en plus, c'est possible parce qu'ils ont des endowments, ils ont des dons de gauche à droite qui peuvent leur permettre vraiment de faire exactement ça. Quoi. Donc, espérons que bon, Princeton a fait des efforts dans ce sens ces dernières années. Donc, les gens visent beaucoup les étudiants donc, d'origine modeste et beaucoup viennent étudier à Princeton, disons, pratiquement sans frais. Quoi. Et ils sont en même temps bourses. Je pense qu'il serait intéressant de voir comment les d'autres universités et Princeton elle-même. Disons, étendre ce genre de programme-là donc pour permettre vraiment de réduire le poids donc, des études supérieures, donc surtout pour les familles pauvres. Quoi.
Mais ces programmes et ces bourses, malheureusement, ils ne sont pas accessibles à tous. Et bien souvent aussi, ils ne couvrent pas l'ensemble des frais. Donc on se retrouve quand même avec une facture conséquente.
Oui, je sais, mais je ne dis pas que c'est le cas partout, mais je dis de plus en plus. Certaines universités, je ne peux pas, surtout la mienne, il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens-là. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier également que les universités publiques, notamment les universités publiques, par exemple, les universités de Californie, Michigan, qui, pour les étudiants qui viennent de l'État, donc payent légèrement, en fait, payent beaucoup moins. Bon. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même du progrès dans certaines universités par rapport à ce qui se faisait par le passé.
Alors, on va passer la parole à une auditrice. On a au bout du fil Patricia Stanley. Bonsoir, Patricia.
Bonsoir.
Alors, je ne sais pas si vous avez un commentaire ou une question, mais on vous écoute.
Bon, pour moi, en fait, j'aimerais bien proposer aux universités des États-Unis une chose, en fait. Ils doivent se mettre à la place de tout le monde, en fait. C'est vrai que lorsqu'on a besoin de réaliser quelque chose de façon optimale, il faut tout d'abord avoir de quoi nous allons avoir besoin. Il faut savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut en réalité. Mais les universités ne se mettent pas à la place de classe sociale de tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au plus bas de leur niveau, mais qui veulent étudier dans des universités chères, mais ne peuvent pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont limités. Ils n'ont pas un revenu mensuel qui peut leur permettre d'aller étudier normalement comme tout le monde. Et nous qui sommes par exemple ici en Afrique, on a besoin de venir là-bas étudier. C'est vrai qu'ils offrent de bourses, mais les bourses c'est pour combien ? C'est peut-être qu'ils prennent par exemple dans chaque université 100 et le 100 sont répartis pour chaque pays. Donc ils peuvent bien mettre, je ne sais pas, de moyens, une situation financière qui peut permettre aux gens qui viennent d'ailleurs de payer, ceux qui sont au pays, qui peuvent payer par exemple 25 000 dollars s'ils sont capables, ils peuvent payer, oui, mais qui se mettent aussi à la place d'autres pays africains qui veulent venir là-bas étudier, avoir une certaine connaissance, parce qu'ici, vraiment, on a la connaissance, mais ce n'est pas comme là-bas. Là-bas, on apprend autre chose aussi. Donc, c'est un peu ça.
Alors, Souleymane Béchir-Diagne, vous avez peut-être envie de répondre à un petit commentaire ?
Oui, déjà, il faut, évidemment, nous sommes tous d'accord que les universités demandent des prix absolument exorbitants. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que lorsque les universités admettent des étudiants américains, parce que pour les étudiants dits internationaux, c'est une autre affaire, mais des étudiants américains, normalement, elle ne regarde pas, elle juge sur la qualité du dossier. Et une fois qu'elles ont jugé sur la qualité du dossier, elles demandent la feuille d'imposition des parents. C'est à ce moment-là que les universités regardent la capacité d'endettement des parents de l'étudiant et par conséquent, et elles peuvent offrir des aides financières liées à cela. Il peut même arriver qu'un étudiant ne paye rien, qu'il ait ce qu'on appelle le full ride, c'est-à-dire qu'on lui offre la tuition pour faire ses 4 années pour avoir un billet. Donc il y a cet aspect des choses qui est la part sociale, si vous voulez, de l'activité des universités. Parce que les universités disent qu'elles veulent attirer les étudiants qui sont d'origine assez diverse. Par conséquent, si on veut avoir des étudiants qui ne sont pas tous des des classes moyennes supérieures, il faut évidemment pouvoir modeler les tarifs en fonction de l'origine des étudiants. Ça, c'est une chose. Mais il est vrai que, de manière générale, ce sont quand même les étudiants les plus riches qui se retrouvent là. Mais, encore une fois, cet aspect des choses existe. Normalement, l'admission est aveugle aux conditions financières et ensuite fait en sorte que les meilleurs étudiants, s'ils ont d'excellents dossiers mais qu'ils ne peuvent pas s'endetter à cette hauteur-là, ces étudiants-là vont bénéficier d'aides financières. Mmh. Maintenant, pour les étudiants internationaux, c'est évidemment autre chose parce que nous pouvons toujours exiger, mais les États-Unis, les universités américaines ne doivent rien aux étudiants internationaux. Donc, leur demander de considérer plus particulièrement les étudiants africains, c'est moralement soutenable, mais on se demande pourquoi elles le feraient.
Et surtout encore des universités privées.
Pour avoir cette diversité, les universités, elles peuvent consentir des conditions financières. Mais il faut bien aussi voir la situation générale, qui est la suivante. Vous avez des flux internationaux d'étudiants, en particulier chinois. Énorme, parce que le gonflement des classes moyennes chinoises a fait une sorte de boom de demande d'éducation. C'est, beaucoup de ces étudiants sont envoyés par le gouvernement qui paye,
oui.
Rubis sur ongle. Donc cela pousse un peu aussi à la hausse les tarifs, et les étudiants internationaux ne sont pas logés à la même enseigne que les étudiants américains ou même les étudiants Léonard l'a précisé tout à l'heure, venant d'autres États que l'État où se trouve l'université en question.
Oui, absolument. Alors, pour beaucoup d'étudiants, ce qui se passe, c'est qu'ils vont contracter des prêts. Ils vont aller à la banque et demander un prêt étudiant. C'est quand même beaucoup d'Américains qui passent par ce processus-là. Et ça a quand même des conséquences sur la vie de beaucoup d'Américains, n'est-ce pas, Leonard Wanchekon?
Célèbre du président américain, donc de l'ancien président américain Barack Obama, qui a fini de payer cette dette étudiante juste quelques années avant, je pense, de devenir sénateur et puis après président. Donc c'est un poids lourd. Mais là, je pense qu'il faut un peu nuancer les choses. D'abord, pour revenir un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est que si moi je suis en Afrique et je veux venir aux États-Unis, je vais préférer finir le premier cycle en Afrique et venir faire le doctorat ou la maîtrise ici. Mm-hmm. Moi, j'ai, par exemple, dans l'école que j'ai créée au Bénin, donc nous avons 16 étudiants donc, qui ont pu avoir des bourses pour venir étudier ici, donc bourses de 50 000 par année, si on tient compte des frais de scolarité. Donc, c'est pour dire que c'est un peu fou, donc pour des gens qui sont, disons, qui n'ont pas les ressources, donc de planifier venir ici juste après le bac, au lieu d'attendre pour la maîtrise. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut poser le problème des universités africaines qui devraient au moins avoir des politiques qui permettent donc d'améliorer la qualité, donc afin que les gens ne soient pas obligés aussi jeunes de quitter et de venir étudier aux États-Unis ou en France. Donc, il y a ça. Donc, je pense que, pour revenir à la question des prêts,
oui.
Donc c'est ça, c'est un véritable problème. Tous les candidats aux élections présidentielles en parlent. Donc, je pense que le problème, ça passe par le soutien donc du gouvernement, le soutien des universités, donc une tendance vers la baisse des prêts de scolarité, donc pour qu'on n'ait pas nécessairement besoin donc d'aller vers là. Parce que certaines universités sont devenues très, 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 très riches. Donc, il y a des universités qui ont des endowments énormes, donc qui ont des ressources énormes. Donc, de plus en plus, elles peuvent utiliser ces ressources-là donc, pour permettre donc, de réduire le poids de l'enseignement du premier cycle, donc au moins du premier cycle, donc aux gens qui viennent des classes moyennes.
Mais quand on investit autant d'argent dans ces études, on n'a pas forcément une garantie de retour sur investissement. Tout dépend du travail qu'on va avoir, c'est quand même très risqué, non?
Bon, il ne faut pas oublier quand même que le taux de chômage ici est assez bas. Et donc, c'est vrai aussi que le fait qu'il y ait même que le système financier, le système bancaire soient ouverts à cette possibilité-là, ce n'est pas quelque chose qui est totalement négligé. Moi, je parle dans les pays en développement, il y a des gens qui sûrement ont un avenir sur le plan professionnel, mais qui veulent avoir un diplôme qui leur permette d'y arriver, mais ils n'ont pas accès aux finances, ils n'ont pas accès au crédit pour pouvoir le faire. Donc l'existence de ce système, ce n'est pas nécessairement en soi une mauvaise chose. Donc, au tout au moins par rapport aux pays africains, par exemple. Donc, mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que le poids de cette dette-là s'amenuise de plus en plus par le fait que maintenant que ces universités sont assises, certains existent depuis 200 ans, ils chargent les frais de scolarité, disons, plus faibles, et où qu'elles apportent de plus en plus d'aide, hein, d'aide financière, donc aux étudiants venant donc des pays, enfin, venant des milieux modestes. Quoi. Prenez Princeton, Princeton admet que 5% des gens qui ont fait la demande. Parmi ces gens-là, peut-être c'est 2% ou 3% qui viennent des familles pauvres. Ce n'est pas un nombre énorme de gens. Mm-hmm. Donc, il doit être possible, voilà, qu'avec l'énorme, donc, l'énorme assiette financière dont l'université dispose, de pouvoir aller agressivement en aide à ces gens-là. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il y a le problème, quoi.
Très bien. Alors, on va prendre un autre auditeur. Il s'agit de Alphonse Mbouaki, qui est en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, madame. Madame.
Oui.
Moi, j'ai une question seulement à poser à votre interlocuteur, à savoir, que par rapport aux immigrés, est-ce que ils bénéficient aussi des endettements gouvernementaux comme les Américains, si tel est le cas, bon, lorsqu'ils terminent, ils vont rembourser ça sur les décennies. Alors, je voulais savoir si, par exemple, un immigré sentait le besoin de retourner chez lui, mais n'a pas épuré, n'a pas épuisé les dettes. Est-ce que c'est faisable pour se rentrer?
Je pense que je n'ai pas très bien entendu. La communication n'est pas très très bonne. Si vous pouviez répéter votre question, Alphonse.
Je disais que si les immigrés aussi ont droit à des endettements gouvernementaux, les immigrés, les enfants des immigrés, si tel est le cas, lorsqu'ils terminent, ils doivent travailler là-bas et ils vont rembourser ces dettes sur des décennies. Alors, quand ils commencent à travailler et qu'ils sentaient le besoin de retourner chez eux, puisqu'ils sont immigrés,
oui,
en laissant des lettres comme ça, c'est possible qu'ils puissent rentrer sans qu'ils soient inquiétés par le gouvernement.
Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas lequel des deux, peut-être cette fois-ci, on peut donner à Souleymane Béchir Ndiaye. Vous avez compris la question. Il s'agit de donc des immigrés qui contracteraient des prêts. Comment ça se passe pour eux, surtout s'ils veulent rentrer dans leur pays?
Bah, vous savez, les systèmes de prêts, il y a des cas où les universités elles-mêmes consentent des prêts, mais les prêts en général se contactent auprès d'organismes de prêts qui fonctionnent comme les banques. C'est comme si vous alliez dans un pays, ça n'a pas besoin d'être pour... Alors, quand c'est pour l'enseignement, j'imagine qu'il y a des possibilités différentes, mais c'est comme contacter un prêt, quel qu'il soit, auprès d'un organisme financier qui va vous demander des garanties. J'imagine que l'organisme financier, si vous n'êtes pas citoyen du pays en question, donc va prendre des garanties et probablement pas vous consentir un prêt s'ils n'ont pas le sentiment que vous pourrez le rembourser.
Ouais.
Donc ça, c'est moins directement lié à l'université elle-même que à la logique bancaire normale.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, qu'on essaie de comparer hein, avec l'Afrique. Hein, quel parallèle peut-on dresser par rapport au système universitaire africain qui sont gratuits, mais qui n'ont pas forcément la qualité, Léonard Van Chicon?
Oui, ça c'est une question très importante. C'est-à-dire, on oublie que la formation, surtout la formation universitaire, est très chère. Et donc, la gratuité a ses limites. Donc, les professeurs sont très mal payés, ils n'ont pas de poste de recherche, et donc la mauvaise qualité de l'enseignement s'ensuit. Donc, Et ça fait justement que de plus en plus, même les universités publiques en Afrique, donc chargent les frais de scolarité. Je dis bien les universités publiques. Les universités privées n'en parlent même pas. Il y a des universités privées en Afrique qui coûtent 10 000 euros, 15 000 euros par année. Il y a donc certaines universités, beaucoup d'universités publiques qui chargent 1 200 euros par année. Donc, tenant compte du coût de la vie dans ces pays, c'est à peu près comparable à ce qui se fait ici. Et ça, on parle d'universités publiques, hein, on ne parle même pas d'universités privées. Donc, le problème, le parallèle est là. Donc, maintenant, ce qui est vraiment fondamental à faire, donc, c'est que on trouve un juste milieu, quoi. Donc, à ce que, en Afrique en particulier, donc, les universités, comme elles le font déjà, aient la possibilité donc, de lever des fonds. Donc, une chose que les universités africaines ne font pas suffisamment bien, mais que les universités américaines font bien, c'est la levée de fonds par les professeurs, par exemple. Aller chercher des grandes subventions, aller chercher des subventions auprès du secteur privé pour pouvoir financer leur propre recherche. Et par conséquent, donner 30%, 40% de ces subventions à l'université pour sa propre, pour la gestion, donc, disons, la gestion des ressources humaines, donc, de l'université, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un système de financement qui permette à ces universités de payer mieux leurs professeurs, de subventionner la recherche et même d'améliorer les infrastructures. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut apprendre de l'Amérique, justement, c'est ça. Même si l'Amérique également doit, comme on l'a dit tout à l'heure, aller vers un système donc, où les coûts de la formation coûtent moins cher, en fait, sont amoindris pour les gens venant des classes moyennes ou des sous. Mm-hmm.
Souleymane Bichirdiane, qu'en dites-vous ? L'Afrique va devoir revoir son modèle et peut-être s'inspirer du système américain ?
Alors, de toute façon, elle doit s'inspirer de beaucoup de modèles et inventer son propre modèle. Mais il est vrai, et je reviens sur ce que disait Léonard, qui est très juste, c'est que vous avez la situation suivante aujourd'hui dans les universités africaines. Lorsqu'elles sont gratuites, publiques et gratuites, vous avez ce qu'on a appelé la massification, c'est-à-dire la démographie galopante qui fait que ce sont des universités où les étudiants ne trouvent pas de place, même physiquement. On s'entasse dans des amphithéâtres qui sont pleins, devant des professeurs qui sont mal payés, qui ne sont pas en nombre suffisant, et on ne pourra plus jamais construire aussi rapidement. Ce qui fait que la gratuité, au fond, aujourd'hui, devient un problème aussi, puisque les universités sont obligées, pour rester publiques, d'augmenter les droits d'inscription pour avoir un minimum qui leur permette de fonctionner. L'État, si vous voulez, ne peut pas continuer à accroître les budgets de l'éducation, en particulier de l'enseignement supérieur, parce que ça se fait au détriment des autres niveaux d'éducation. Et donc, on est dans ce genre de problème. La démultiplication aujourd'hui des établissements d'enseignement supérieur privés est une réponse à cela. Alors, la situation à laquelle on assiste, c'est que les classes moyennes qui le peuvent envoient leurs enfants dans les structures privées, aussi bien à l'école élémentaire, au secondaire, que maintenant dans l'enseignement supérieur privé. Il y a eu une croissance exponentielle d'étudiants dans le secteur privé et la proportion grossit. Je l'ai vu de près parce que j'ai travaillé sur le système éducatif sénégalais, sur la réforme de l'enseignement supérieur, justement. Alors, c'est là le grand problème. Pour continuer à assurer un enseignement public, il faut quand même que cet enseignement public ne soit pas totalement gratuit, qu'il y ait un niveau raisonnable de participation qui est demandé aux étudiants et à leurs parents. C'est à cette condition-là qu'on gardera un système public.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, Souleymane Bichirdiane et Léonard Wanchekon. À la production, c'était Cheikh Thiérot. Morgane Guériec au micro. À bientôt.